Chapitre 5. Je me mis à déplorer ma gaucherie, ma sottise, mon embarras. J'ignorais alors que cet embarras, cette gaucherie, ont aussi leur langage éloquent auprès de quelques femmes, et qu'il est plus malaisé à contrefaire que l'autre. Bientôt pourtant, me rappelant son air, son trouble et son regard, je fus moins mécontent. J'allais me replacer vers la fenêtre pour la voir sortir, lorsque j'entendis la porte s'ouvrir. Je n'eus que le temps de sauter sur le lit de mon oncle, où je me cachais derrière les vieux rideaux verts qui en écartaient le jour. « Mais ma belle enfant, ce que vous me dites là !»« Mais un jeune homme, je vous assure, monsieur Tom. »« Un jeune homme ici, impudent. Et comment est-il fait ?»« Il l'est fait. Il n'a pas l'air impudent, monsieur. »
« C'est pas autre chose. Permettez, s'introduire ici.
Peut-être quelqu'un de votre connaissance.
Mais non, moi ou mon neveu, personne autre.
Oh, « Je crois que c'est lui, » dit-elle en baissant la voix et les yeux.
« Lui que je quitte en cet instant, au-dessous de cette chambre. Et dites-moi, le connaissez-vous, mon neveu ?»
Il y eut une pause d'un siècle.
Vous rougissez, ma belle enfant. Oh, soyez sûr que vous pourriez rencontrer de moins honnêtes, de moins aimables aussi. Mais dites-nous, le connaissez-vous?
Monsieur, vous dites qu'il demeure au-dessous de votre chambre.
J'y ai vu quelquefois, à la fenêtre, le même jeune homme qui m'a reçu ici. Impossible, je vous le dis. C'est bien mon neveu que vous avez vu à la fenêtre, car il y passe sa vie. Mais pour s'être introduit ici, il en est bien innocent, mon pauvre Jules. Et je vous dirai pourquoi. Hier au soir, vers 9 heures, l'étourdi s'était penché sur un échafaudage, sans que j'aie pu comprendre pour quelle cause, si ce n'est peut-être pour quelque espièglerie dans la salle de l'hôpital vis-à-vis.
Ici, la jeune fille est de plus en plus troublée, détourna la tête de mon côté pour cacher à mon oncle sa rougeur.
Et puis craque un grand bruit. J'accours et je le trouve gisant, de telle façon que je l'ai fait mettre au lit, où il est encore. Mais tenez, voici, moi, ce que je suppose. Une jeune personne de votre air doit souvent trouver des jeunes gens sur ses pas. Quelqu'un d'eux, plus hardi, vous m'entendez, a pu vous précéder. Pas de honte, ma fille, pas de honte, y a pas à être en être bête. Eh bien, laissons cela, si ça vous embarrasse. Une autre fois, je fermerai mieux ma porte et parlons d'autre chose. Vous me rapportiez mon livre, Que dites-vous de ce texte? Eh bien, posez-le là et attendez un instant. Je veux attendre. Et il entra dans un cabinet qui ouvrait dans la bibliothèque. Je frémis, car ce cabinet ordinairement fermé communiquait à ma chambre par un escalier intérieur. J'étais l'unique témoin qu'elle eut durant ces instants. Cela me parut une inestimable faveur, comme si j'eusse été associé à son secret. Et dans ses traits, son attitude, ses moindres gestes, je croyais lire des choses semblables à celles qui venaient de se passer en moi. Moment de mystère, moment d'un calme délicieux, où mon cœur retrouvait dans la réalité quelques-unes des impressions de mon songe. C'était la première fois que, la voyant de près, je pouvais me repaître du charme que je trouvais en elle. Que ne puis-je la répandre dans ses lignes? Et la première peindre comme elle m'apparaissait, et encore semblait-il que la bibliothèque de mon oncle Tom lui fut comme un cadre merveilleux qui rehaussait son éclatante beauté. Sur les rayons poudreux, ces livres vénérables représentant la suite des âges, ce parfum de vétusté, ce silence de l'étude, et au milieu, cette jeune plante, toute de fraîcheur et de vie. Ce sont choses qui ne se peuvent enclore dans des mots. Cependant, debout depuis longtemps, elle alla s'asseoir près de la fenêtre sur le fauteuil de mon oncle, et appuyant sa joue sur sa jolie main, elle se mit à regarder le ciel, pensive et mélancolique. Un sourire léger comme le souffle parcourut ses lèvres. Puis ses regards se portèrent négligemment sur le gros in-folio que mon oncle venait de quitter. Peu à peu, ils s'y fixèrent et un intérêt croissant se peignit sur son modeste visage que colorait une vive rougeur. « Je l'ai !» cria en cet instant mon oncle Tom. Alors elle se leva, sans pourtant ôter ses yeux de dessus in-folio, jusqu'à ce que mon oncle fût rentré dans la bibliothèque. « Ah, le voilà, et non sans peine, je vous le donne, pour l'amour de l'hébreu. Je garde l'autre, plus précieux pour moi, qui tient au texte. Le baroquin de celui-ci sierra mieux à vos jolis doigts. Tenez, souvenez-vous du docteur Tom. Vous êtes trop obligeant, messieurs. J'accepte votre joli livre, et je ne vous oublierai point, quand même je n'espérerai pas de venir vous voir. » « Et quand j'y serai, lui dit mon oncle en souriant, crainte des neveux. Ah, à propos, j'oublie que j'ai le mien. Adieu, au revoir. » Et il l'accompagna. Déjà, l'in-folio qui avait attiré ses regards était en ma possession. Mais je tremblais que mon oncle ne me donnât pas le temps de m'évader. Heureusement, il avait laissé la porte du cabinet ouverte. Je m'y élançai, et en un clin d'œil, mon livre est en sûreté, le mannequin sous le lit, et moi dessus, attendant mon bon oncle Tom qui entre. « Ah, au lever, dit-il, et réveillé à quelle heure ?»« À 10 heures sonnantes, mon oncle. » Ici, une satisfaction complète se peignit sur le visage de mon oncle Tom. Il était content de me voir établi, et plus content encore de l'honneur qui en résultait pour la science. Alors, prenant un ton solennel, « À présent, Jules, je vais te dire ce que tu as eu. Oui, tu as eu une hémicéphalagie. Croyez-vous, mon oncle ? Oh, je ne crois pas, Jules, je sais, et je sais bien. » car je ne me suis pas écarté d'Hippocrate d'un iota. C'est la chute qui, par l'ébranlement du cervelet, a fait extravaser les sécrétions internes de la membrane cérébrale. Et c'est du bien dans quel état je t'ai trouvé, pour précipiter, regard fixe, délire complet, sur ce, en plâtre. Ah, mon oncle, n'en parlez plus, et ne comptez cela à personne. L'emplâtre provoque une légère transsudation. Il y a du mieux. Le délire, cependant, ne paraît pas diminuer. Sur ce, julep. Oui, mon oncle. Et alors, sommeil paisible. Oui, mon oncle, délicieux. Sommeil prévu, prédit, prophétisé, d'une heure de la nuit à 10 heures sonnantes du matin. Et te voilà convalescent. « Guéri, mon oncle. Non, non, non. Et surtout, évitons une rechute. Tu vas te tenir tranquille pendant que je te préparerai un léger synapisme. Après quoi, nous verrons. Repose-toi. Et pour aujourd'hui, ne travaille pas. Promets-le-moi. » Oh, vous pouvez y compter. Aussitôt que mon oncle fut sorti, je me jetai sur l'in-folio, mais je tombai dans une autre perplexité. Le livre avait 2000 pages, et dans ma précipitation, j'avais négligé de marquer celle qui seule m'intéressait. Fouiller cet antre! Il y a là-dedans une pensée, un mot peut-être, qui a pu la toucher, et ce mot, le découvrir entre 1 million d'autres. Cependant, une invincible curiosité me poussait à le chercher, comme si mon sort eût dépendu de cette découverte. Je me mis à l'œuvre. Oh, que de grimoires passa sous mes yeux! Quelle ardeur à l'étude! Si mon oncle m'eût vu, ou seulement mon professeur. « Studieux jeune homme, ménagez-vous, m'est-il dit, vous y allez trop fort !» C'était un recueil de vieilles chroniques du Moyen-Âge, où étaient relatées maintes aventures fabuleuses, amoureuses, maintes pièces de blason, des notes, des actes, un pot pourri dans le goût de mon oncle. J'y trouvais pourtant beaucoup de choses qui pouvaient s'appliquer à elle, à moi, mais non plus qu'à tout autre. J'arrivais ainsi à la 200e page. Cependant, la vis criait, l'échelle roulait, une agitation extrême se manifestait dans la chambre de mon oncle, et évidemment, pendant que je me livrais à l'étude, il perdait son temps. Il me vint une idée. Je montai. En effet, mon oncle Tom était dans un état déplorable, comme une lionne à qui, enfin, je veux dire qu'il errait, cherchant son bouquin, le redemandant à ses layettes, à sa table au ciel. Le trouble et le désordre avaient envahi son tranquille et silencieux domaine. « Volé, je suis volé, volé et perdu !» il m'expliqua le fait. « Ce livre est sans prix, introuvable. J'étais sur le point, à la page même. Oh, je n'ai plus mon autorité. Oh, Libanius, tu vas triompher !» Il n'est pas possible, il faut absolument voir. Et à quelle page, mon oncle? Le sais-je. 3 années de discussion sur la bulle unigénitus et faire naufrage au port. La bulle, dites-vous? Oui, unigénitus. Unigénitus, oh, il est vrai que c'est affreux. Et cette page? Mais cette page relatait la bulle avec une variante qui ne se trouve nulle part ailleurs. Et rien d'autre. Eh, tu trouves, toi, que c'est pas assez? Je donnerai ce que j'ai pour cette page. Mais je l'aurai, continua-t-il. Une seule personne a pu faire le coup, faudra bien qu'elle me fasse connaître quel est le drôle qui parle les in-folios. Allons. Et mon bon oncle rajusta sa perruque, prit sa vieille canne, mit son petit chapeau à cornes et sortit. Je redescendis aussitôt, répétant tout bas « Bulunigenitus, bulunigenitus », crainte de perdre mon mot. « Bulunigenitus, bulunigenitus », disais-je en fouillant mon bouquin, « bulunigenitus ». Ah, la voilà en grosses lettres. Oh, c'était du latin, horrible mécompte. Depuis cette impression-là, j'ai toujours eu de la répugnance pour le latin, qu'auparavant, à la vérité, je n'aimais pas. Remarquant toutefois que la bulle commençait au milieu de la page, je jetai les yeux sur ce qui précédait. Voici. Comment la chastellerie d'Anglivois entra en la branche des Chauvins par le mariage de Messire de Saint-Tré avec Henriette d'Entragues. Oh, que n'avait été d'amour féru le jeune demoiseau! Or il avint que la barbe lui bourgeonnait à peine, qu'il vit Henriette à la cour du château et prit beaucoup de plaisir à la considérer, jante qu'elle était pour lors et d'avenante figure, et humait par ainsi faire le mal d'amour, ne pouvant à autre chose songer durant le jour et l'éveil de la nuit. Toutefois, ne savait comme lui dire, étant neuf au propos d'amour. Et aisé et sans pour qu'il était parmi les garçons, par-devant la demoiselle était gauche et mal avisée. Or est-il que, toujours plus esprit, se donna courage et un jour s'étant posé en la chambre de son aïeul, où ce qu'elle devait venir, lui apprêtait avec un bouquet un tant magnifique témoignage de la flamme dont il ardait pour ses beaux yeux. Et tant qu'elle ne vint pas, était merveilleux à lui en dire, en lui présentant gracieusement son bouquet. Est-ce, voyant Henriette entrer, le jeta visiblement dessous la table, et devint muet gauche et plus mal appris qu'un varlet pris en faute. Henriette, de son côté, l'ayant vu, et le bouquet épars, rougit merveilleusement, en telle façon qu'ils étaient là, en face, rouges, comme de pavots les champs, et sans plus dire. Et y fût-ce encore sans l'aïeul lequel entrait. Que faites-vous, séant? Etc., etc. Je lus et relus 1000 fois cette page. Oh, j'étais transporté de joie. Car comparant dans mon esprit les naïfs incidents de cette histoire avec ce que j'avais lu sur le visage de ma juive, j'avais tout lieu de croire que ma timidité et ma gaucherie ne lui avaient pas déplu. Comme j'avais pu inférer de son entretien avec mon oncle que ma préoccupation et aussi ma figure à la fenêtre ne lui avaient pas échappé. Ainsi nous nous étions compris. Ainsi j'étais 1000 fois plus avancé que je ne croyais l'être, et je pouvais désormais me livrer au penchant de mon cœur sans être arrêté par la difficulté du premier pas ou par la crainte de lui être étranger. Je commençai par prendre une exacte copie de ces lignes chéries, puis ayant sur le cœur le chagrin que j'avais fait à mon oncle, je profitai de son absence pour reporter le livre que j'ajustais parmi d'autres, de manière à ce qu'il pût croire qu'il l'avait lui-même égaré. Je revins chez moi où je m'enfermai pour être plus seul avec mes pensées, qui ce jour-là me furent une douce compagnie. Je repassais sans cesse dans mon esprit les mêmes choses pour leur trouver de nouvelles faces, jusqu'à ce qu'enfin, fatigué, je laissais le pas fait pour m'occuper des pas à faire, car unir mon sort au sien était désormais l'unique but de ma vie. J'avais 18 ans, j'étais étudiant, sans état, sans ressources autres que les bontés de mon oncle. Mais ces difficultés m'arrêtaient peu, et je les aplanissais au moyen de 1000 ressources que je puisais dans ce courage que donne la vivacité d'un premier amour. L'ambition, le dévouement, de vagues désirs de gloire, ennoblissant mon cœur, m'élevaient jusqu'à ma chair juive, et alors je recevais sa main en lui offrant un sort digne d'elle. Ou bien, songeant combien j'étais encore loin de ces brillantes choses, je formais le vœu qu'elle se trouvât être pauvre, obscure, délaissée, telle enfin qu'il eût à gagner en s'alliant à moi. Et les dédains du portier, me revenant en mémoire, devenaient alors mon unique espérance. C'était dimanche, les cloches appelaient les fidèles au temple, et leur son monotone ramenait du calme dans mon âme. Elles se turent, et le silence des rues encouragea ma pensée qui s'était portée au-delà des obstacles. Bientôt l'harmonie des chants sacrés, le son grave des orgues, se mêlant doucement à ma rêverie, j'en vins insensiblement à me figurer moi-même au milieu des fidèles, jouissant d'un tranquille bonheur auprès de ma compagne, tous les deux lisant au même psaume, ses belles paupières baissées sur le livre, son haleine se mêlant à la mienne, et une douce félicité devenue notre partage sur cette terre et notre commune attente dans l'autre. Mais une juive au sermon, non, cette idée ne me vint pas. Un cœur épris ne convie pas à ses rêves que ses désirs et son imagination. Société douteuse et facile, que rien ne gêne dans ses ébats. Hélas, je suis revenu depuis sur la terre. J'ai cheminé en compagnie de la réalité, sous la férule du jugement et de la raison. Ils ne m'ont pas donné tous ensemble, ces rigides précepteurs, un moment qui se puisse comparer aux célestes émotions d'alors. Pourquoi faut-il que ces moments soient si courts et qu'ils ne se retrouvent plus? J'ignorais le nom, la demeure de celle qui s'était ainsi emparée de mon existence. J'attendis avec une croissante impatience l'heure du lundi. Elle ne parut pas. Le mardi et le mercredi se passèrent de même. J'appris que, depuis 2 jours, le malade auquel elle avait donné ses soins était mort. Le vendredi, impatient, J'étais monté chez mon oncle. Un inconnu frappe à la porte et lui remet un paquet. « Ouvre cela, Jules, » me dit-il. J'ouvris. C'était le livre de Maroquin. Sur la couverture intérieure, on lisait ces mots. « Si je meurs, je prie que l'on rende ce livre à M. Tom, de qui je le tiens. » Et plus bas, « Que si M. Tom veut me faire plaisir, il le donnera à son neveu en souvenir de celle qu'il a reçue dans la bibliothèque. »« Si elle meurt, » m'écriai-je. « Elle mourir ?»« Pauvre enfant, » dit mon oncle Tom, « que peut-il lui être arrivé ?»« Où demeure-t-elle, mon oncle ?»« Ben, nous irons ensemble chercher de ses nouvelles. » En un instant après, nous étions dans la rue. Il pleuvait, nous marchions presque seuls. Au détour d'une rue, nous vîmes un groupe. Mon oncle ralentit le pas. « Mais qu'est-ce, dis-je, n'allons-nous pas ?»« Mon pauvre Jules, il est trop tard, » c'était le convoi. Depuis 2 jours, la petite Vérole l'avait emporté. Dès le lendemain, je recommençai à flâner. Flânerie d'amertume et de vide, insipide loisir, dégoût du monde, des hommes, de la vie elle-même, sans le charme de quelques souvenirs. J'avais, pour toute compagnie, pour tout ami, le petit livre. Et quand j'avais relu la ligne qui m'était destinée, le regret serrait mon cœur jusqu'à ce que les larmes coulassent de mes yeux et vinssent me soulager. Mon autre ami fut mon oncle Tom. Je lui dis tout, et quand je lui contais mon stratagème, je ne trouvais dans son cœur qu'indulgence et bonté. Ému de ma tristesse, il y entrait pour sa part, sans la comprendre toute. Et quand le soir il me voyait sombre, il approchait doucement sa chaise de la mienne, et nous demeurions en silence, unis tous deux dans une même pensée. Puis, par intervalle, « Une fille si sage, » disait-il dans sa simplicité naïve, « une fille si belle, oh, une fille si jeune. » Et je voyais, à la lueur du foyer, une larme poindre dans sa vieille paupière. Enfin, le temps aussi vint à mon aide. Il me rendit le calme et d'autres plaisirs, mais jamais de semblables. J'avais enterré là ma jeunesse.